Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
We just have too much stuff that's being produced.
Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. Outils tech, conseils de marque engagés ou en transformation, partage d'expertise, ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider l'industrie vers un développement durable. Je vous donne rendez-vous tous les 10 jours sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous abonner à la chaîne présente le double avantage d'être notifié à la sortie d'un épisode et de nous soutenir en un seul clic. Nous avons également une newsletter business mensuelle à laquelle vous pouvez vous inscrire sur thegoodgoods.fr. Bonne écoute! Bonjour Julien.
Bonjour.
Bienvenue à la caserne. Avant que j'arrive, il y a une discussion en off qui était à moitié sur l'écologie auprès de vos enfants, d'après ce que j'ai compris. Et puis Shein, la minute d'après. Je ne pense pas qu'on ait le temps d'évoquer tous ces sujets qui sont passionnants aujourd'hui, mais ça m'intéresse un petit peu d'avoir le retour d'expérience d'un papa, c'est ça, dans la discussion avec ses enfants au sujet de l'écologie.
Ouais, bah en fait, ce qu'on se disait avec Coraline, c'est que quand je la voyais, je projetais ma fille peut-être dans quelques années, donc dans une dizaine d'années. Et ce que je lui partageais, c'est que peut-être aller un petit peu influencé par papa et maman, nos modes de consommation, les sujets qu'on évoque, la maison, etc. Mais en fait, surtout avec les copines et les copains. Et puis, je pense que en fait, toute la vulgarisation de ce que la science nous apporte pour comprendre qu'il y a des choses à changer, en fait, à la maison, ils prennent parfois même le lead sur des sujets sur lesquels on doit consommer différemment. Est-ce que c'est raisonnable de faire ça? Et je trouve ça plutôt cool.
C'est chouette parce qu'il doit y avoir un écho et ça donne des insights pour peut-être votre propre métier, vous dire ok, si cette génération-là qui est celle potentiellement des consommateurs de demain est déjà intéressée par la question, ça peut être même d'avoir leur retour d'opinion sur qu'est-ce que vous pensez du fait de louer un produit de sport par exemple ou de l'acheter de seconde main. Est-ce que ça vous en avez parlé?
Ouais, c'est ça. Alors dans la maison, forcément avec un papa qui travaille à Decathlon, on est pas mal orienté sur le sport, donc pendant les vacances on loue souvent, etc. Et il viendrait, en habitant à Lille, il ne viendrait pas à l'esprit de ma fille à la fois de ne pas faire de stand-up paddle l'été ou à la fois d'immobiliser un stand-up paddle toute l'année dans le garage alors qu'on n'en a pas besoin. Donc c'est des choses pour lesquelles, si nous, dans notre formation à la fois de citoyens mais aussi de consommateurs, on a déjà des prérequis, eux ils partent sans rien et en fait... C'est un stand-up paddle qui est sur la plage et qu'on paye de manière simple, etc. C'est OK pour eux.
Et alors, dans la vie professionnelle, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez nous présenter et nous parler un peu de votre parcours?
Ouais, alors vous m'excuserez, chez Decathlon, on n'a jamais des intitulés de métier qui correspondent à ce qu'on va retrouver dans la culture globale. Donc j'ai le statut de leader. Leader, ça veut dire responsable, hein, globalement, chez Decathlon. Pour l'activité donc Second Life, et le modèle Second Life chez Decathlon, il va être tourné sur deux enjeux. Un qui va être d'offrir la capacité à Decathlon à ce que à chaque fois qu'on générait un déchet, peut-être au lieu de générer un déchet, qu'on se propose de reconditionner le produit et de le revendre. Et la phase, donc ça c'est une phase qui est plutôt bien avancée. Et l'autre enjeu, il est d'aller travailler l'économie du produit reconditionné en allant proposer à des utilisateurs une expérience singulière qui réponde aux problèmes qu'ils rencontrent dans leur quotidien. J'ai trop de produits à la maison, ils prennent trop de place. Dans mon budget aujourd'hui, j'ai envie d'allouer de l'argent à autre chose. Et donc pour ça, en fait, on fait de la reprise et ensuite on reconditionne les produits, on les revend. Et c'est une activité qui est en plein boom chez Decathlon.
Ça fait combien de temps qu'elle est développée ?
Alors, la reprise, on va dire que c'est quelque chose qui est né aux alentours de 2017-2018, qui a au début un petit peu vivoté, parce que globalement, la seconde vie n'était pas encore à ce moment-là un axe stratégique pour le groupe. Et là, désormais, c'est le cas. Donc, en fait, on est trop content d'avoir désormais les moyens, les attentions pour créer les conditions de l'activation de ces solutions pour satisfaire des sportifs.
Et un marché en demande. Alors, on va revenir en détail, bien sûr, sur cette activité. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, votre historique chez la marque et peut-être avant ?
Ouais. Alors, ça ne s'entend pas peut-être comme ça. Je suis originaire de Marseille. Et donc, du
sacré
côté de
vertical.
Ouais, voilà.
Jusqu'à Lille.
Ouais, donc j'ai suivi le parcours des ch'tis, sauf que chez Decathlon, en fait, tu montes dans le Nord si t'as bien fait ton travail, d'accord ? C'est pas si t'as menti ou si t'as fait des trucs, voilà. Donc j'ai eu la chance de faire des études dans le Sud, orientées communication, orientées business, mais aussi nouveaux médias. À l'époque, Internet, ça existait très peu, c'était pas disponible dans un mobile, etc. Pour vous, ça paraît irréel, mais pour moi, c'était comme ça. Et finalement, comme j'étais sportif depuis très longtemps, je suis rentré chez Decathlon. J'ai travaillé dans des magasins, des ouvertures de magasins, dans des lieux merveilleux. On a créé un Décathlon à Fréjus, au bord de l'eau. C'était fantastique. Du côté de Nice aussi, là on est les montagnes dans la mer, c'était merveilleux aussi. Et ensuite, dans ma région plutôt d'origine, dans les Bouches-du-Rhône, puisque je suis originaire d'Aubagne. Et donc j'ai créé un Décathlon à Istres et ensuite j'ai fait cette verticale, je suis monté à Lille sur un poste de directeur commercial dans lequel j'ai commencé à toucher à la seconde vie puisque dans mes attributions il y avait les activités de service client chez Décathlon, on va parler de cartes cadeaux, de financement, d'assurance, etc. et du fameux Trocathlon. Donc à cette expérience qui existait depuis 1986 chez Décathlon et voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à toucher à la chose de la seconde vie.
Et donc, avant ça, donc, en fait, vous avez toujours bossé chez Decathlon. Et par contre, la dimension circularité est venue sur le tard. Il n'y avait pas de formation spécifique. Quelque part, votre activité s'est construite en même temps que le marché, peut-être la demande. L'activité du troc, par exemple, c'était à l'initiative de qui au départ ?
Alors, l'activité du troc, j'aime bien cette histoire. À l'époque, le président fondateur de Decathlon, Michel Leclerc, il se rend aux États-Unis pour bencher, visiter un peu ce qu'est le retail du sport aux États-Unis. Et il voit un grand player là-bas qui, hors saison, met des grosses tentes sur son parking et invite des Américains à revendre leur matériel et contre des bons d'achat. Voilà. Donc, il trouve ça génial et on teste la chose à Lyon en 1986. C'est Gilles Nourry qui fait ça. Et donc, en fait, c'est un carton et ça dure pendant longtemps. Et puis, dans les années 2010, en fait, il y a des nouveaux acteurs qui touchent à la chose de la seconde vie. Il y a Le Bon Coin avec la crise 2008 et ça qui fait son trou. Et moi, là, à ce moment-là, j'arrive à Lille en 2013 et je suis en charge de l'animation de ce truc-là. Donc, quand tu le fais, ça marche. Mais par contre, tu sens bien qu'il y a plein de choses à régler. C'est pas assez digital, on le fait que deux fois dans l'année. On n'apporte pas de garantie à des utilisateurs. Voilà. Et autour de ces insights-là... j'ai travaillé pour créer de nouvelles choses.
Est-ce qu'on peut faire un petit, avant de focus sur cette activité, un petit tour d'horizon de Decathlon en général ? Parce que c'est vrai que c'est un groupe qui est énorme. Enfin, je parle de groupe parce que je crois qu'il y a plusieurs marques au sein du groupe, Quechua, Forcla, etc. Ce sont des marques en propre à l'intérieur de l'entité Decathlon, avec pourquoi pas quelques datas, combien ça représente d'employés, éventuellement combien ça représente de chiffre d'affaires, quels sont les différents segments d'activité aujourd'hui dans le monde.
Ouais. Alors Decathlon, c'est effectivement un grand groupe, très grand groupe même. On a plus de 100 000 décathloniens qui travaillent donc pour servir des sportifs. On va être présent dans une soixantaine de pays sur tous les continents. Et ça, c'est vrai que souvent autour de moi, les gens découvrent que Decathlon, c'est présent au Chili, Decathlon, c'est présent en Malaisie. Et à chaque fois que moi je découvre ça, je trouve ça fantastique. J'ai eu la chance d'aller en Inde, Décathlon en Inde, c'est quelque chose de très conséquent. Et c'est plein de sens hein, que les Indiens fassent du sport. Et à côté de ça, donc le chiffre d'affaires du groupe, donc ça va être aux alentours, je crois. Alors, on n'a pas la clôture de 2022 communicable pour l'instant, mais je crois qu'on clôture 2021 sur aux alentours de 15 milliards d'euros. Et après, vous parliez des marques. Alors, en fait, on est divisé avec une partie conception et une partie distribution. Donc effectivement, dans la partie conception, on a des marques, donc Forcla sur le trekking, on va avoir Nabaiji sur la natation, etc., qui sont responsables de constituer une offre qui soit l'offre la plus synthétique possible, la plus performante pour répondre aux besoins des sportifs. Et en fait, l'ensemble de ces marques sont commercialisées sous l'enseigne Decathlon sur un site e-commerce et dans des magasins.
Et chacune de ces marques a, par exemple, son pôle communication, son pôle RSE, ou est-ce qu'il y a des lignes directives communes aux différentes entités du groupe ?
Donc effectivement, au niveau groupe, on a des partis pris qui s'expriment au travers d'une équipe RSE, par exemple, dont je ne fais pas partie, puisque en fait, mon activité va être rattachée plutôt à une division business. Et on verra que ça, c'est très important parce qu'on doit changer les choses dans le cœur nucléaire de ce qu'elles sont. Donc je fais du commerce, et donc c'est dans une stratégie commerciale qu'il faut promouvoir cette activité. Et donc les guidelines là, de cette équipe RSE, ensuite, elles sont appliquées par les sports, donc qui vont travailler sur l'éco-conception, sur la décarbonation de leur offre, également sur le mix produit. Par exemple, si vous avez trois produits et que parmi les trois, il y en a un qui a des performances environnementales largement supérieures, comment est-ce qu'on va favoriser sa représentation dans le mix produit ? Et ensuite, ils ont aussi contribué à l'activation, la prise de conscience que l'économie circulaire était une opportunité pour le groupe pour aller décarboner, et je dirais durablement. Durablement, je mets ça en opposition à l'éco-conception sur laquelle il est évident qu'un jour, on va trouver les limites de l'éco-conception. D'accord ? Si on doit produire un article, même si on le produit le mieux possible, on va quand même devoir extraire des matières premières, les transformer, etc. Et alors que la circularité, potentiellement, elle peut ne pas avoir de limite à la condition que, dès la conception, on ait pensé des produits durables.
Est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution de l'ADN de la marque depuis son existence et peut-être depuis ces 10 dernières années ? Est-ce qu'il y a des valeurs fondamentales qui ne changent pas et lesquelles sont-elles ? Et puis, quelles sont peut-être celles qui correspondent aux nouveaux enjeux, notamment climatiques ?
Ouais. Alors, donc les mots ont un sens très important chez Decathlon. Et on va parler d'abord du sens. Le sens, c'est cette phrase qui doit être simple à comprendre et qui réunit l'ensemble des personnes qui travaillent chez Decathlon. Et donc, c'est cette phrase qui était « rendre accessible le plaisir et les bienfaits des sports ». Alors déjà, cette phrase, elle a évolué à peu près il y a 3-4 ans. Et donc, on a juste rajouté un mot, mais qui fait finalement énormément bouger la boîte, qui est de rendre accessible durablement le plaisir et les bienfaits du sport. Et donc, quand on raconte ça en mettant le mot durablement, bah, finalement, on doit repenser plein de choses. Durablement, comment est-ce que des sports vont pouvoir durablement être pratiqués ? Donc là, par exemple, je pense immédiatement dans cette situation très critique en ce moment sur la situation du ski. Voilà, comment est-ce qu'on vit le sport à la montagne ? Comment ensuite, durablement, on conçoit des produits ? On les conçoit pour qu'ils soient jetables, ou est-ce qu'on les conçoit pour que la pratique puisse être durable ? Et enfin, il y a des choses qui sont très de l'ordre de l'accompagnement à la pratique du sport. Il y a plein d'abandonnistes. Comment est-ce que vous allez pouvoir démarrer un sport et le pratiquer durablement ? Et là, en fait, il faut réunir des hommes, des femmes, les faire se rencontrer, avoir un meilleur pote, leur dire l'endroit où c'est sympa de pratiquer à son niveau, etc. Et donc, c'est là où Decathlon, avec, enfin, ce n'est que mon point de vue, mais voilà, la nomination de notre nouvelle responsable, Barbara, apporte quelque chose de nouveau, c'est que finalement, on entre désormais dans une phase d'accélération de ce mouvement. Donc, le sens de Decathlon évolue encore pour aller encore plus loin et à la fois couvrir des activités servicielles pour que les gens pratiquent vraiment le sport dans des meilleures conditions, côté produit, pour que on aille pousser vraiment l'éco-conception, le mix produit et l'économie circulaire au maximum de ce que l'on peut produire. Et quand je dis peut produire, ça veut dire que désormais, on n'est plus en charge de produire une trajectoire sans limite. Une trajectoire économique, désormais, elle doit s'inscrire dans un tunnel, dans un tunnel dans lequel vous avez une limite haute, qui est le carbone, une limite basse, qui est la viabilité du modèle économique de notre entreprise. Et ça, c'est beaucoup plus vertueux de se discipliner à dire, en fait, finalement, ma responsabilité, ce n'est plus de faire le maximum de chiffre d'affaires possible. Mon activité, désormais, ma responsabilité, c'est aujourd'hui de trouver le bon équilibre entre une croissance de résultats mais un objectif de décarbonation compliance avec les accords de Paris.
Vous êtes soumis à l'exercice de la triple comptabilité, normalement, dans
tout
le
cadre
de votre chiffre d'affaires. Et donc ça, c'est des chiffres que vous publiez. Enfin, au quotidien, je m'interroge sur comment c'est mis en place dans les équipes. Est-ce que c'est des objectifs vraiment que vous donnez comme des objectifs commerciaux à vos teams et notamment aux gens qui sont chargés des ventes? Comment, en pratique, ça se matérialise en interne?
Alors, en fait, sur chaque poste, on va avoir un niveau de responsabilité, quand je parle, un niveau de responsabilité différent. Sous-entendu, il y a des gens qui vont... Tout le monde a une responsabilité importante. En revanche, parfois, vous avez une responsabilité qui va impacter très largement l'entreprise. Les personnes qui ont ce type de responsabilité, par exemple, chez Decathlon, on en parlait, ça va être le responsable d'une marque, le responsable de Forclaz, le responsable de Quechua, le responsable de Artengo. Ça va être le responsable d'un pays. D'accord, ça va être le responsable de l'Italie, ça va être le responsable de l'Israël, ça va être le responsable du Portugal. Ces personnes-là, aujourd'hui, elles sont animées par une scorecard. Une scorecard, ça va être en fait un ensemble de critères sur lesquels ils remplissent leurs objectifs si et seulement si, sur l'ensemble de ces critères, ils ont progressé. D'accord. Et donc, aujourd'hui, la performance environnementale à travers la décarbonation du modèle est clairement au cœur de l'animation de ces personnes-là. En revanche, quand vous avez une responsabilité parfois un peu plus opérationnelle, un peu moins stratégique, tout aussi importante, mais que votre périmètre d'action, ça va être par exemple les ventes de votre magasin, à ce moment-là, vous n'avez pas la possibilité de décarboner les produits du magasin, puisque les produits du magasin ont été pensés par d'autres. En revanche, ce que vous pouvez activer, c'est la représentation du chiffre d'affaires durable dans votre activité. Dans ce chiffre d'affaires durable, on a décidé chez Decathlon de comptabiliser l'économie circulaire. Voilà, donc le chiffre d'affaires de la réparation, le chiffre d'affaires de la seconde vie et le chiffre d'affaires de la location.
Tout à l'heure, vous avez mentionné donc la notion d'éco-conception dans la politique RSE et de décarbonation, le remplacement notamment des matières. Je sais que chez Forclaz, il y a eu aussi un process de relocalisation, je crois, de certaines activités industrielles. Nécessairement, en tout cas dans mon esprit, ça s'associe à une augmentation des coûts, sauf si on fait des volumes énormes, mais qui dans ce cas ne sont pas forcément logiques dans cette politique de décarbonation. Comment est-ce que vous allez faire? Déjà, première question, est-ce que la quantité de vêtements, d'objets, d'accessoires produits va rester stable ou voire va diminuer si vous allez davantage à la circularité? Et deuxièmement, est-ce que vos prix vont rester les mêmes parce qu'il y a quand même une vraie politique de démocratisation, j'imagine, de l'accessibilité au sport?
Tout à fait. Alors, le rapport au prix, pour moi, c'est un rapport statique. C'est un rapport statique, c'est-à-dire qu'en fait, si je juge uniquement mon activité par rapport à l'évolution de mes prix, je ne peux pas bouger, je suis paralysé. Mais si vous parlez de location, si vous parlez de nouveaux modèles tels que la seconde vie, etc., en fait, vous n'êtes plus comparable, puisque vous mettez en place de nouvelles activités, d'accord? Et donc, si on reparlait uniquement de l'approvisionnement de produits neufs et tout ça, il est évident que l'accès aux matières premières, que mieux rémunérer des hommes et des femmes continuellement partout dans le monde, transporter équitablement des produits, etc., il est évident qu'il y a une nécessité à ce que le prix de ces choses-là augmente. En revanche, si ces choses-là que vous produisez, vous les avez produites, réparables. Vous les avez produits ensuite, associés à des solutions digitales, par exemple, qui vont vous permettre ensuite de les réutiliser plusieurs cycles. Ben en fait, finalement, vous changez votre activité. Certes, les prix d'accessibilité augmentent, mais finalement, en fait, vous garantissez encore plus l'accessibilité aux produits. Si je veux être plus concret, je vais vous donner, par exemple, un produit simple, imaginez, je sais pas, un vélo enfant simple. Aujourd'hui, un enfant, ça grandit très rapidement, hier aussi, sauf que hier, on ne s'en préoccupait pas. Et donc, aujourd'hui, un enfant, ça change son vélo tous les 2 ans et demi. C'est stupide. Un enfant, ça grandit bien plus vite que ça. Donc en fait, on est dans un mauvais sketch de à chaque fois que j'achète un vélo enfant, j'achète toujours trop grand le jour de l'anniversaire et je le rends toujours trop petit. Et donc ça, en fait, c'est une solution inefficace. Et donc c'est pour ça que les outils comme la location, la seconde vie vont venir libérer les parents de l'emprise du prix pour aller plutôt être focus sur la valeur d'usage. Parce qu'en fait, un papa et une maman, quand ça achète un vélo aujourd'hui, ça se dit, j'achète aujourd'hui tel prix, mais surtout, combien je vais le vendre. Donc là où on a un vrai défi, c'est pas que sur le prix, c'est sur la valeur résiduelle. D'accord ? La valeur résiduelle à la fois numéraire, hein, quel montant ce vélo va pouvoir coûter en seconde vie, et donc comment j'ai un business model adapté à ce truc-là, mais en même temps, quelle est la valeur d'usage résiduelle pour garantir que les éléments de ce vélo qui vont être les plus impactés, un vélo enfant par exemple, va être très impacté sur les pédales, sont plus durables.
Et sur la quantité de produits, est-ce que c'est des discussions qui sont en cours la réduction globalement.
On peut en parler librement. Ouais. Je vous remercie de prendre des précautions avec ça. Non, je sens votre bienveillance.
Je vais pas employer les mots de décroissance, post-croissance, parce que ça fait fuir tout le monde, mais en même temps.
Non.
Voilà,
non,
vous avez parlé du tunnel de.
Décathlon est responsable. Voilà, Décathlon est responsable et Décathlon dirige son activité. Et donc, on est à la fois dans un défi, je vous le disais, de représentation du mix produit. Donc, si effectivement, dans le mix produit, doit y avoir une stabilisation des quantités de production sur des articles simples et que ces articles simples, pour permettre une croissance ensuite économique, sont remplacés par des cycles autour des nouveaux usages circulaires, on sera très fiers, et parce que c'est ce qu'on a décidé et c'est ce qu'on est en train de produire actuellement.
Très bien. J'ai une dernière question sur la dimension éco-conception des produits. Vous avez fait partie du pilote ADEME sur l'expérimentation de l'affichage environnemental. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu votre retour d'expérience et où est-ce que vous en êtes, nous dire où vous en êtes aujourd'hui ?
Tout à fait. Donc aujourd'hui, on est toujours en ligne avec nos objectifs. Par exemple, que 100% des produits textiles chaussants devaient avoir un affichage environnemental à 2026. Donc on est toujours en direction de ça. Aujourd'hui, ça représente à peu près 65% de l'activité. Ça continue de croître. Cette année, un des super défis a été de traduire ça sur les fonctions e-commerce, parce que le préachat, la visite d'un site e-commerce pour ensuite faire son choix à la maison sereinement, en reprenant toutes les bonnes informations, etc., avant de préparer son achat, c'est quelque chose de très important. Et donc aujourd'hui, on s'anime sur le nombre de pages de produits qui vont traduire l'impact environnemental. Donc quand vous allez choisir, je sais pas, votre pantalon par exemple de fitness ou de randonnée, vous allez pouvoir comprendre ce qu'est l'impact environnemental. Je pense qu'on peut encore progresser pour raconter qu'est-ce qu'il y a derrière cet impact environnemental, parce que faut dire que votre sac à dos ou votre pantalon correspond à 8,3 kg de CO2. C'est pas encore assimilable pour tout le monde, et je pense qu'on doit progresser sur ça.
Oui, il y a des gros enjeux de communication, mais qui sont peut-être les mêmes. Ou en tout cas de la même envergure que ceux concernant la circularité, la seconde main, la façon dont on amène ses clients à ces nouveaux modes de consommation. Donc pour revenir justement sur cette activité-là, vous parliez donc en 2013 de votre verticalisation sur le secteur de la seconde main, votre spécialisation. Il y avait donc Le Bon Coin qu'on a évoqué en concurrent à l'époque. Apparemment une stratégie qui n'était pas tout à fait définie. C'était quoi au départ votre travail, en fait, vos constats ? Comment vous avez construit cette stratégie justement de seconde main pour le groupe ?
Alors, quand j'arrive en 2013, déjà, je découvre un métier de directeur commercial sur l'animation de l'ensemble des services clients d'un pays. Donc, je suis plutôt dans la phase d'exécution d'un métier qui existait un petit peu déjà, etc. Et en fait, après deux années d'expérience et avec une copine qui avait rejoint Decathlon et qui était plutôt une experte du digital, on fait le constat que l'activité Trocathlon deux fois par an sur un parking dans lequel vous amenez vos produits, mais finalement, il y a une partie de vos produits qu'on ne va pas reprendre parce qu'il n'y a pas de business model pour ça, ou bien la tente est trop petite et votre planche à voile, elle ne va pas pouvoir rentrer là-dedans. Voilà, on voit bien qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui s'expriment moins à nous, mais qui existent quand même, qui vont être... des fois, on vend des produits, mais en fait, le Trocathlon, c'est un dépôt-vente. Donc, en fait, Decathlon était acteur de la mise en relation entre deux personnes qui finalement ne vont pas se rencontrer, mais le premier vendeur met en vente son vélo, un acteur vient l'acheter, mais par contre Decathlon n'avait pas de garantie sur ce vélo. Et en l'occurrence, parfois j'avais des appels au centre de relations clientèle, mais attendez, je viens d'acheter un vélo à Decathlon, et on me dit que finalement ce vélo est en mauvaise qualité et c'est un problème pour personne. Donc ça, pour moi, c'était inacceptable. À partir du moment où quelqu'un avec un gilet Decathlon a touché un produit, on s'engage vis-à-vis d'un utilisateur comme si c'était notre frère, notre sœur, notre maman, et donc on apporte des garanties. Donc là, pour moi, il y avait quelque chose qui était insuffisant. Donc immédiatement, ce que je change tout de suite à l'heure actuelle, en 2015, je mets en place une politique d'échange. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous achetez des produits neufs chez Decathlon, vous n'êtes pas satisfait, vous nous les ramenez sous 365 jours avec votre ticket de caisse ou votre compte client. Je fais la même chose pour les produits d'occasion, il n'y a aucune raison. En revanche, ce que je ne peux pas faire, c'est apporter une garantie commerciale. Si votre produit fait défaut, parce que je ne peux pas faire ça, parce que le modèle économique, c'est du C2C. Et donc, pour moi, donc, le modèle, là, il est inefficace. Et donc, je décide de le faire changer en C2B2C. Donc, ça veut dire que Decathlon doit redevenir propriétaire d'un produit pour ensuite le remettre sur le marché avec une garantie à l'époque d'un an et maintenant décider 2 ans.
Donc, ça veut dire, pardon, je vous interromps pour bien comprendre, mettre en place un système de vérification intermédiaire, réparation si besoin.
Ouais, mais pas que de vérification, de redevenir propriétaire. Donc, redevenir propriétaire, ça change tout. Ça veut dire que quand tu redeviens propriétaire, tu dois faire rentrer ce stock dans les systèmes d'information de Decathlon pour débriefer la fiscalité de cette activité, pour débriefer la valeur de stock, etc. Tu dois réaliser des inventaires. Et là, en fait, tu es face à quelque chose de passionnant, mais affreux, qui est que ton système d'information, il n'est pas du tout prêt à faire ça. Ton système d'information, il est prêt pour recevoir des produits issus de la production, massifié dans des entrepôts et distribué dans des magasins et sur le site e-commerce. Et aujourd'hui, raconter dans ces systèmes d'information-là la chose de la seconde vie, c'était impossible. Donc la première chose que je fais, je recrute Anthony, qui est désormais un de mes meilleurs copains, qui est informaticien, qui est donc un magicien et qui va m'aider pas à pas à créer l'architecture informatique qui va nous permettre de donner vie à cette activité.
Donc ça pour la partie vraiment logistique, gestion des flux. Mais est-ce qu'entre les deux, il y a une vérification de la qualité des produits, une remise en état si besoin ?
Ben si, parce qu'à partir du moment où tu as décidé de rentrer dans ce business de brocanteur, en fait, hein, parce que le statut qu'il faut en préfecture, c'est tu es brocanteur, c'est une obligation. Donc, en fait, on n'a pas de souci. Chez Decathlon, on a toujours dirigé l'activité des ateliers. Donc, en fait, la compétence du reconditionnement, de la réparation, on la maîtrise chez Decathlon. Alors, on ne maîtrisait pas à ce moment-là sur l'ensemble des natures de produits, mais au moins sur les vélos et les skis. Donc, ce n'était pas si difficile pour ça, pour nous. Vraiment, hein, j'insiste là-dessus, la plus grande difficulté, c'était la modularité du système d'information. L'autre grande difficulté à ces horizons-là, entre 2015 et 2017, c'est que la chose de la seconde vie n'est pas prioritaire chez Decathlon. Donc quand tu as besoin de cash ou quand tu as besoin de faire passer un développement informatique, y a toujours le copain du e-commerce et la copine de la marketplace qui passent devant toi.
Et les gens ont probablement plus le réflexe, parce que c'est vrai qu'on n'assimile pas, en tout cas peut-être à l'époque, Decathlon à une offre de seconde main. Ou bien vous aviez déjà commencé à communiquer là-dessus.
Depuis 1986, tu fais du Trocathlon, donc la passerelle entre Decathlon qui faisait du Trocathlon et Decathlon qui revend lui-même des articles de seconde vie n'était pas si difficile que ça. Hein. Il faut mettre de l'énergie, il faut mettre de la notoriété, de la prise de parole, etc. Mais c'était pas ce qui était le plus difficile. Non, vraiment, ce qui était le plus difficile, c'était de faire changer un système informatique pour pouvoir exister en, en toute légalité, hein, parce que si tu peux très bien diriger ton activité avec un fichier Excel, tu payes pas d'impôts, tu n'as aucune traçabilité du stock, etc. Et ça, c'est très très dangereux. Donc, pour bien faire les choses, et Decathlon ne sait pas travailler autrement qu'avec des règles très très importante, il a fallu faire changer les choses et on est encore en train de faire changer les choses pour désormais passer à l'état de l'art quoi, et pouvoir être une véritable grande plateforme de seconde vie.
En pratique, comment ça se passe le parcours utilisateur, que je sois revendeur ou intéressé par l'achat de seconde main, en boutique et en ligne ?
Ouais. Et alors là, c'est là où tu démarres de pas grand-chose et puis tu as de grandes ambitions. Et là, si j'avais un conseil à donner aux gens qui vont suivre ce podcast, c'est à bien définir dès le début la big picture. Parce que quand on parle de systèmes d'information et de leur architecture, si tu as bien défini la manière dont tu vas faire grandir ton entreprise, dès le début, ton architecture, elle est bien posée. Et donc, ensuite, tu vas développer les choses pas à pas. Donc, par exemple, on a commencé à faire du développement de rachat de produits en magasin pour de la revente en magasin. Mais en fait, si tu crées les conditions de tes systèmes de manière monolithique, ils ne savent faire que ça. C'est-à-dire que demain, tu veux faire du rachat de produits en venant chercher des produits à domicile et les mettre dans des entrepôts, en fait, c'est infaisable. Parce que ton logiciel, il ne sait pas traduire cette chose-là. Et c'est pour ça que le conseil, c'est plutôt avancer pas à pas, mais ayez bien défini la cartographie de ce que vous voulez faire, hein, de votre voyage entrepreneurial très tôt, pour garantir que chaque pas est facilement faisable. Et donc ça, on l'a compris pas tout de suite. Donc en fait, on a dû défaire les systèmes pour ensuite les remonter de manière beaucoup plus agile pour faire des systèmes qui, désormais, si j'ai besoin de racheter un produit en magasin ou si j'ai besoin de racheter un produit en e-commerce qu'on va venir collecter à domicile et ensuite recentraliser dans notre entrepôt, finalement, derrière, c'est le même service informatique et qui va pouvoir le traduire. Donc, on a commencé avec des activités simples en magasin. Et puis, désormais, on est en train de travailler pour qu'on élargisse cette activité, pour qu'on puisse recentraliser des produits en entrepôt. Recentraliser des produits en entrepôt pour pouvoir avoir accès à des solutions de reconditionnement qui ne sont pas possibles en magasin. Imaginez, par exemple, vous amenez votre tapis de course défectueux dans un magasin. Bon, ce n'est pas dans un magasin qu'on va réparer votre tapis de course. Donc, si jamais j'ai racheté ce produit-là et que je ne suis pas capable de le dévoyer en entrepôt pour ensuite le revendre en e-commerce, il n'y a pas de business model assimilable pour ce tapis. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de construire. Et à côté de ça, on a donné vie à une autre expérience qui se matérialise sur le site secondevie.decathlon.fr, sur lequel, là, en fait, vous allez retrouver toute une liste d'articles. Et que si jamais vous n'en avez plus besoin, vous pouvez cliquer sur l'article, vous répondez à quelques questions, on va avec vous le pricer en fonction de son état visuel et fonctionnel. Et ensuite, il y a des articles pour lesquels on va vous donner un bon de transport pour que vous l'envoyez à Decathlon. Et puis il y a d'autres articles pour lesquels, les articles on va qualifier de non coffrables, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans une voiture pour être transportés chez Decathlon, on va venir les chercher à domicile.
Est-ce que vous avez du coup développé un peu des grilles type Argus pour chaque typologie de produit ?
Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est des choses qu'on a commencé à faire très tôt et qui, au fur et à mesure de l'élargissement du business model et des frais de structure, sont de plus en plus complexes. Et pour lequel, là, on est en train d'animer un POC avec un premier produit d'intelligence artificielle sur lequel on est en test sur le pricing des VTT. Donc voilà, on a ce petit bébé informatique qui est en train de grandir. En fait, par exemple, une fois sur deux, une fois sur trois, quand vous voulez faire racheter votre VTT, chez Decathlon France, ça va être une fois sur trois, la proposition elle n'est pas faite par la grille historique, mais elle est faite par ce produit-là. Mmh. Et en fait, on mesure les taux de satisfaction à chaque fois. On transforme, on ne transforme pas. Donc, il est auto-apprenant. Et donc, c'est une structure d'investissement assez importante qui va nous permettre d'apporter de plus en plus de performance à notre système de pricing.
Et c'est une IA qui est basée sur un aspect photographique, sur des critères que remplissent les vendeurs ?
Ouais, sur des, c'est pour l'instant sur des critères d'information liés au, à la structure du produit que l'on va racheter, son état, et également au business model qui lui est associé.
C'est le vélo le, plus, le produit le plus circulaire pour l'instant chez vous ?
Oui, effectivement, durablement, hein, aujourd'hui dans toutes les études, 70% du marché du sport, en tout cas sur l'Europe occidentale, se matérialise par le vélo.
Vous avez parlé de la difficulté de, d'obtenir du cash pour ce genre de projet. Comment est-ce que vous avez convaincu, je sais pas moi, le CEO ou bien vraiment les managers qui étaient décisionnaires, on va dire, les décisionnaires plutôt que les managers, si vous avez eu à le faire, c'était quoi les arguments ?
Les choses, là, elles étaient super complexes. Super complexes parce qu'en fait, il faut être très lucide. Hein. J'aurais été CEO il y a 5 ans, j'aurais pas donné de l'argent à la seconde vie. Pourtant, j'étais le gars de la seconde vie. Parce que les responsabilités du CEO il y a 5 ans, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et donc, il y a une personne qui, était, qui avait de grandes responsabilités chez Decathlon et qui m'a dit, bah, tu vois, donc c'est pas le CEO, mais c'était quelqu'un d'autre qui lui était associé et qui m'a dit, bah, je suis désolé parce qu'en fait, je voyais que t'étais en galère et j'aurais voulu t'aider, mais en fait, j'ai pas pu le faire. Et je lui dis, mais rassure-toi, parce que j'aurais eu ta responsabilité, j'aurais fait exactement la même chose. Pour deux raisons. Si tu veux du cash, il faut être dans une entreprise qui déjà sait sortir du cash et en dégager. Et aujourd'hui, le modèle qui était le nôtre encore il y a 2-3 ans, il n'était pas prêt à être autofinancé. Donc aujourd'hui, on était bien financé par le modèle historique. Donc le modèle historique, on avait quand même continuellement besoin de lui donner vie et notamment cette transfo digitale et cet élargissement de l'offre à travers la stratégie de la marketplace. Donc pour moi, j'étais OK avec ça. En revanche, on a bien compris donc que le sujet, c'était le mandat du CEO. Et pour faire ça, en fait, on a la chance d'être dans une entreprise qui vit dans un écosystème familial. Un écosystème familial, ça pense très long terme. Et bah dans une famille, il y a plein de personnes. Et notamment, il y a pas mal de jeunes acteurs, donc des jeunes actionnaires de la famille Mullier, qu'on a la chance de pouvoir rencontrer régulièrement, etc. Et en fait, dans des réunions avec eux, on a fait de l'influence, mais pas de l'influence, comme je dirais, par des lobbies, etc. C'est juste des gens qui travaillent chez Leroy Merlin, chez Boulanger, chez Decathlon, Noroto, qui se réunissent et qui vont voir certains des actionnaires pour dire, en fait... Bah regardez, parce que si on change pas les choses, c'est pas OK, quoi. Et en fait, concrètement, le message, il est venu des actionnaires familiaux qui ont vu l'ensemble des CEO des grandes boîtes, qui les ont fait rentrer dans un schéma de formation pour leur faire comprendre que la transformation environnementale, en fait, c'était une singularité et que c'était ce qu'il fallait désormais entreprendre. Au-delà de la transfo digitale dans laquelle on vit tous depuis déjà plus d'une décennie. Bah, c'est comme ça que finalement arrivent les grands changements avec notre ancien CEO et puis désormais notre nouvelle super CEO dont le mandat est complètement aligné avec ce que je dois produire.
Et donc alors à ce moment-là, ils disent OK, on donne un budget, on fait une feuille de route et voilà ce qu'on peut attendre ou en termes de rentabilité. Vous aviez des objectifs, vous vous êtes dit c'est du test and learn, on verra bien. C'était quoi les KPIs quelque part ?
Alors, en fait, tout part du Decathlon global. Voilà. Qu'est-ce que Decathlon doivent devenir, etc. Donc là, le COMEX travaille à la redéfinition des axes stratégiques de Decathlon. Et le deuxième axe stratégique devient la décarbonation de l'entreprise. Et finalement, ensuite, avec d'autres en charge de ce pilier-là, on a la chance de pouvoir avoir déjà un budget qui nous aide à travailler avec des partenaires pour comprendre cette responsabilité et de bénéficier de conseils. Donc là, par exemple, on travaille avec une super boîte, on a travaillé avec Schneider Accenture, sur si on devait modéliser cette décroissance pour éviter d'aller vers plus de 12 millions de tonnes de CO2, mais d'aller redescendre vers quelque chose d'acceptable qui serait plutôt 9 millions de tonnes horizon 2026, comment on s'y prendrait ? Et c'est là où finalement, en fait, on sort ces trois axes qui vont être la décarbonation par l'éco-conception, par l'évolution du mix produit Decathlon et par amener l'économie circulaire à être représentatif dans le groupe Decathlon. Et donc là, en fait, finalement, on définit une modélisation, une trajectoire. On présente ça à notre directrice générale, qui la valide, et qui, en lien avec ce nouveau plan stratégique qu'elle dirige, nous donne des budgets. Par contre, des budgets qui vont nous permettre... pas à pas d'entreprendre cette chose-là, donc d'une modélisation, d'une copie plutôt mathématique. On est en train de passer à un plan de mise à l'échelle dans un territoire circonscrit, donc dans 1, 2, 3, 4 pays. Et si la chose d'ici 2 ans, on va dire, est complètement validée là, dans ces pays-là, on finira de mettre à l'échelle dans le reste du groupe Decathlon.
Trop bien, poisson pilote quoi.
C'est ça.
Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner concernant l'activité d'occasion depuis le début de l'activité ? Chiffres et où information client, est-ce que c'est la même typologie ? Comment varie le taux d'achat de neuf par rapport à la seconde main, etc.
Avec grand plaisir. On va parler d'abord de choses qui grattent un peu, mais qui sont des trésors, les avis clients. Les avis clients, aujourd'hui, on va être à 4,5 sur 5. Pour moi, c'est clairement insatisfaisant. Une activité servicielle référente, vous prenez n'importe quelle grande plateforme dans le monde, etc., et ils vont être à 4,8. Donc là, on a ces 3/10 à aller chercher, et les clients sont généreux, donc ils nous expriment assez facilement... Ce qui ne les contente pas. Aujourd'hui, on fait du rachat en magasin, on le fait essentiellement sur des vélos et des skis. En fait, ça se fait, c'est des opérations qui sont dirigées par les vendeurs vélos, les vendeurs skis, qui ont déjà énormément de travail. Qui sont aussi des fois des activités saisonnières dans lesquelles on fait rentrer des petits jeunes, des petites jeunes qui n'ont pas une technicité à la hauteur de ce que les équipes piliers qui travaillent déjà depuis 5, 6, 10 ans chez Decathlon savent faire. Donc, on a décidé de travailler pour repositionner cette activité du rachat et de la remettre plutôt dans l'écosystème atelier, dans lequel probablement que les ateliers Decathlon pourront devenir plutôt des hubs circulaires. Et là, en fait, on va confier à de véritables experts de ce métier-là, qui vont faire une grande partie de leur activité que ce métier-là, de l'acquisition de produits, soit pour les réparer, soit pour les revendre, soit pour les retours de loc. Et donc, on va avoir des gens spécialisés en face de nos clients. Le deuxième sujet, on en parlait, c'est l'intelligence du prix. Et là, aujourd'hui, on a démarré en apprenant, en marchant, etc. Et on est satisfaisant, mais on ne génère pas la préférence. Donc, le sujet du prix, c'est un sujet sur lequel on doit largement progresser. Et puis après, il y a des choses qui vont être liées à la simplicité de l'expérience. On a, pour des raisons informatiques, je vous le partageais, des sites qui sont des sites satellites, qui ne sont pas sur Decathlon.fr. Parce qu'on ne pouvait pas faire autre chose, on ne pouvait pas rentrer dans Decathlon.fr, c'était un logiciel qui ne savait que faire du e-commerce. Donc désormais, en fait, on a des fonctions informatiques qui nous permettent de raccrocher ces fonctions-là sur le site historique Decathlon.fr, et donc on doit produire une expérience sans couture sur une plateforme groupe.
Et est-ce que, donc en termes de volume de produits, peut-être on peut avoir un ordre d'idée, ou peut-être en pourcentage, ce que ça représente sur les ventes, et éventuellement, est-ce que c'est un modèle dont on peut dire qu'il est déjà rentable ou pas ?
Alors, aujourd'hui, sur le nombre de quantités, là, on va clôturer à peu près l'année aux alentours de 700 000 quantités, ce qui est tout à fait, pas à la hauteur des ambitions de ce qu'un groupe Decathlon doit produire pour générer cet impact sur les résultats CO2 du groupe.
On parle de la France, hein ?
Non, les 700, là, c'est sur l'Europe.
Ok.
Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on doit largement progresser. Plus de quantité en seconde vie pour répondre davantage aux besoins des utilisateurs. Globalement, un vélo enfant, quand je le mets en rayon à partir du moment où il a été reconditionné et qu'il est en vente, on va le garder maximum 5-6 jours. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un paquet de familles qui ont besoin de Decathlon pour avoir accès à des vélos garantis et sécurisés. On parlait de vélos, on va parler aussi de bien d'autres produits, hein, des tentes, des sacs à dos, etc. Tout le matériel que finalement vous achetez. Mais en fait, si on mettait un produit d'occasion à côté, reconditionné avec des garanties, finalement, le même besoin, enfin le même usage, c'est pas grave. Les gens, ils n'ont pas besoin forcément d'un produit neuf pour ça. Donc ça, il faut absolument que la représentativité de cette activité continue de croître. Cette activité va être présente aujourd'hui dans, on va dire, l'année dernière, une trentaine de pays. Cette année, on va arriver à peu près, je crois, à 45 pays sur 60. Alors, il y a des pays qui sont très matures. La France, par exemple, le Portugal, la Belgique, ce sont des activités qui sont plutôt matures, qui font ça avec des logiciels assez efficaces, etc. Et des territoires un peu plus loin de l'Europe qui, eux, le font avec ce qu'ils peuvent. Et donc, c'est là où encore nos solutions informatiques doivent être amenées à l'échelle pour pouvoir servir l'ensemble du groupe.
Et en termes d'avantages, est-ce que vous voulez un verre d'eau ? Enfin, tu veux un verre d'eau ? Est-ce qu'il y a des avantages extra-financiers sur la réputation, le moral des équipes en interne, peut-être des choses qui sont moins mesurables ?
Oui, il y en a plein. Déjà, à quoi ça sert Décathlon ? À quoi ça sert Décathlon ? C'est une entreprise. Une entreprise, souvent on me dit, ça sert à gagner de l'argent, etc. Ça ne sert pas à ça, une entreprise. Le fait de gagner de l'argent, ça lui permet de réaliser encore plus son sens. Mais la vraie finalité d'une entreprise, c'est de mettre des gens en face d'autres, donc de créer des emplois. Et donc moi, une de mes grandes fiertés, par exemple, notre équipe, je vous ai dit, on était deux avec Anthony, puis après on a eu Claire qui nous a rejoint, etc. Et aujourd'hui, dans les services centraux, on va être plus d'une soixantaine à travailler pour ces sujets-là. Et c'est une activité qui est répliquée dans un grand nombre de pays, donc il y a plein de gens qui sont dédiés à ces activités dans les quartiers généraux de chaque pays, etc. Donc ça, c'est ma première grande fierté. Derrière, on parle de sport. Donc en fait, on va proposer à des gens, avec ces articles de sport, d'être en bonne santé. On va proposer à ces gens de pouvoir partir en vacances, d'être bien, d'aller en rencontre d'autres personnes. Donc ça, c'est tous les bienfaits du sport, vraiment de les rendre accessibles. Et ça, c'est le sens même de notre activité. Et après, évidemment que dans les 10 prochaines années, si vous voulez être désirable en tant qu'employeur pour notamment les plus jeunes, hein, je vous parlais tout à l'heure de ma fille, quand elle va arriver sur le marché du travail d'ici une dizaine d'années, si vous n'êtes pas un acteur qui a fait sa transition environnementale et qui est référent, en fait, vous rentrez à la maison. Il n'y a plus personne pour qui voudra bosser chez vous. D'autant plus que j'espère que d'ici là, la réglementation ne l'autorisera pas.
Ça, c'est un vrai sujet, les problématiques de recrutement, notamment, on l'a vu avec le collectif pour un réveil écologique qui a fait son manifeste étudiant.
Moi, je vous garantis que je n'ai aucun problème à recruter. Aucun problème à recruter parce que Décathlon, on a essayé de prendre soin de la boîte, de recruter autour des valeurs. Alors pour le coup, on a parlé de beaucoup de choses qui ont bougé, il y a aussi des choses qui n'ont jamais bougé chez Décathlon. Les valeurs, elles n'ont pas bougé. Hein. Chez Décathlon, on embauche des gens responsables, on embauche des gens sincères, des gens dynamiques, des gens généreux. Et ça, en fait, ça n'a jamais bougé. Des sportifs, forcément, puisque c'est notre cœur de métier. Et si à ça, vous rajoutez effectivement une transition environnementale, de l'efficience avec des enjeux digitaux bien maîtrisés, en fait, c'est une jolie boîte.
Vous avez développé d'autres modèles circulaires en parallèle. J'ai vu des projets d'upcycling en collab avec des startups, je ne sais pas si on peut les nommer. Enfin, une en particulier, la réparation, la location. Qu'est-ce que ça représente aussi en termes de pourcentage d'activité ? Puis comment est-ce que ça s'organise aujourd'hui ?
Alors, la réparation, c'est un enjeu qui existe durablement chez Décathlon. On a plus de, je crois, 4500 techniciens qui travaillent pour réparer des produits un peu partout dans le monde. Donc, c'est une activité qui est plutôt assez mature, dont on a, par exemple, sur le périmètre seconde vie, sur le périmètre location, extrêmement besoin pour garantir de pouvoir reconditionner des produits à chaque cycle et les remettre sur le marché avec des garanties sur l'usage. Sur l'upcycling et notamment la chose du recyclage, je pense qu'on en est encore pour certaines parties à pas mal d'exploration. il y a des processus sur le recyclage qui sont très bien maîtrisés. Hein. Là, par exemple, sur le Quechua, il y a une grande partie des polaires qui, depuis déjà plus de 10 ans, sont produits à base de produits recyclés. On travaille déjà plusieurs milliers de tonnes avec du coton recyclé, etc. Mais par contre, si on parle plutôt voilà, effectivement, d'upcycling, c'est des choses qui sont beaucoup plus récentes. C'est bien, il faut continuer. De toute façon, on passe toujours par ces étapes-là avant de passer à l'échelle. Par exemple, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait une personne chez Decathlon qui soit nommée sur l'upcycling. Oui. Alors qu'on a deux copains qui sont nommés sur le recyclage, un sur la fin du cycle d'usage des matières pour les collecter, et un autre pour favoriser l'utilisation de matières recyclées dans la conception des produits. Donc ça veut dire qu'il y a encore des postes à créer. Mais en face de on ne crée pas un poste comme ça. Hein. C'est toujours l'histoire d'une femme, d'un homme qui en fait a une ambition, l'écrit, la confronte, la fait revisiter par d'autres et en fait finalement crée la viabilité de son activité.
Ouais, en tout cas j'entends qu'il y a une volonté de s'ouvrir à ces questions et puis ça reste, même si c'est de la R&D, c'est un peu l'équivalent de ce qu'était la seconde main il y a quelques années. Ce sont des tests jusqu'à une éventuelle mise à l'échelle. C'est sûr que l'upcycling est beaucoup plus compliqué, mais c'est intéressant de savoir que c'est des sujets qui vous préoccupent.
Oui, tout clair. À fait. Et on pourrait parler de location rapidement.
Oui.
La location, c'est pas quelque chose de nouveau hein, dans le sport. C'est quelque chose peut-être d'un peu plus nouveau chez Decathlon, mais c'est quelque chose qui a énormément de sens. Et en fait, déjà avec les confrères de la location de l'atelier, en fait, on travaille ensemble, hein, on est dans la même équipe, etc. Donc on a cette chance d'être interopérés déjà dans nos modes de travail. Et aussi dans nos business models. Donc, on a beaucoup de liens pour les faire grandir ensemble. Aujourd'hui, la location, elle est essentiellement développée chez Decathlon à travers l'abonnement. Par exemple, l'abonnement d'un vélo enfant, etc. C'est des choses qui sont en train de grandir très largement chez Decathlon. Et puis ensuite, on a des explorations qui sont faites sur la location courte durée, sur lesquelles je pense que voilà, on peut encore progresser, mais on aura des histoires à écrire, notamment sur les sports saisonniers.
Vous avez mentionné le recyclage, je ne vous ai pas posé la question du devenir des produits trop abîmés quand vous les récupérez en seconde main. Est-ce qu'il y a des filières de récupération chez vous et de recyclage ?
Oui, alors aujourd'hui, on a à la fois la chance et le devoir sur, en tout cas, le périmètre français qui modélisera les choses pour un périmètre européen plus tard, de faire partie d'une REP. D'accord ? Donc c'est assez récent, on fait partie donc d'un marché sur lequel on a la responsabilité en fin de vie de pouvoir collecter des produits pour valoriser soit pour les remettre en état et les remettre sur le marché, soit pour revaloriser leur matière. Donc ça, aujourd'hui, c'est des choses qui sont généralisées en France, et je pense que la France sera le modèle pour ensuite généraliser ça sur l'Europe, et puis ensuite peut-être sur d'autres territoires plus éloignés. Voilà, en tout cas sur la partie recyclage.
Est-ce que vous avez eu une politique de communication auprès des marques que vous revendez sur justement la stratégie seconde main ? Et comment est-ce que c'est reçu ? Parce que vous êtes un revendeur de tout un tas de marques différentes.
Alors j'ai une histoire croustillante à vous raconter.
Chic.
Mais une histoire qui est super belle. Vraiment, pour moi, c'est une de mes plus belles histoires chez Decathlon. Je vais vous parler de Vanessa. Vanessa travaille sur le magasin de Nantes Atlantis. Et Vanessa, je l'ai rencontrée parce qu'elle faisait partie de ses filles, et les filles étaient plus représentées que les garçons, qui avaient décidé qu'on ne jetait plus les produits chez Decathlon. Et donc elle me dit, j'ai besoin de logiciels, machin, etc. Donc nous, on construit les choses, et ensuite on va à la rencontre des magasins pour les former et mettre en place nos solutions pour qu'elles soient bien employées. Bon, ben Vanessa, comme elle attendait les choses, quand je vais à Nantes pour former tous les gens de la région Bretagne, etc., elle fait partie des meilleurs élèves, et donc elle met super bien en place son truc. Et un jour, je reçois un coup de téléphone de France 2 qui nous dit, eh ben, écoutez, en fait, il y a une loi qui va passer sur l'interdiction de jeter des produits neufs. Alors, ce n'est pas notre sujet, parce qu'en fait, là, moi, ce que je fais, je remets des produits en seconde vie, donc ce n'est pas des produits neufs. Mais en fait, personne n'a répondu à France 2, c'est-à-dire que tous les grands groupes de distribution, personne n'a voulu prendre la parole sur ça, etc. Et là, j'ai dit, écoutez, avec beaucoup d'autonomie, hein, comme quand on m'a suggéré de travailler avec vous, j'ai dit, ouais, on va vous répondre. Et là, en fait, finalement, chez Decathlon, on me dit « Ok, mais est-ce que c'est bien de répondre ? Est-ce qu'on est prêt à répondre ? Etc. » Et je dis « En fait, on n'est pas parfait, mais on est bien. On est bien, on a ces activités, elles sont en train de grandir, etc. Enfin, et puis on est Decathlon aussi. Si nous, on ne prend pas la parole, comment en faire pour que tout le monde prenne la parole derrière ? Donc on prépare les choses, etc. Et puis en fait, on appelle Vanessa, on dit voilà, Vanessa, donc elle dirige l'accueil du magasin de Nantes Atlantis. Vanessa, Bertrand, son directeur, est-ce que vous êtes prêts à recevoir les équipes de France 2, etc. Donc là, eux, ils sont super contents. Hein. Donc ils font le plus mauvais magasin possible, etc. Ils reçoivent les équipes de France 2. Et donc là, il y a une jeune fille, je crois qu'elle s'appelle Lola, qui interview les équipes. Alors, vous jetez les produits. Non, on ne jette plus les produits. Désormais, on les remet là, dans le corner. Donc Lola, elle est trop contente. Tiens, cadre bien, montre les produits, etc. Génial. Et vous pouvez nous montrer un peu comment vous reconditionnez les produits. Pas de souci, venez, on va en réserve. Donc là, j'ai une brosse, je nettoie les chaussures, je mets les étiquettes, tout ça. Et puis Lola, elle ouvre la poubelle. Et dans la poubelle, qu'est-ce qu'elle trouve ? Elle trouve une paire de chaussures dans la poubelle. Elle dit, mais attendez, là, cette paire de chaussures, vous la jetez, en fait. Et là, en fait, Vanessa, toute fière, toute droite, elle dit, effectivement, on la jette parce que c'est une paire de Adidas. Et en fait, Adidas et Nike sont les deux seules marques qui nous ont interdit de revendre leurs produits en seconde vie. Parce qu'en fait, ce qu'on avait fait, on avait envoyé un courrier à toutes les marques en leur disant nous, on veut vous favoriser la seconde vie. Si jamais c'est un problème pour vous et que vous nous interdisez, comme dans nos accords commerciaux, en fait, on est soumis à des règles. Voilà.
Et, en amont de la loi, du coup.
En amont de la loi. Ouais. Mais par contre, ce sujet-là, je le rappelle, n'avait rien à voir avec la loi. Puisque la loi, c'était genre, il y a des trucs que tu n'as pas vendus.
Les invendus, bien sûr.
Voilà, et tu vas les brûler. Donc ça, c'était pas ça. Ça, c'était quelque chose qui était encore interdit par d'autres chez Decathlon.
Incroyable.
Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens d'Adidas, ils nous ont rappelé 15 jours après. Ils ont dit « Ah, mais en fait, je pense que votre courrier, en fait, il a mal été reçu, on a mal répondu, etc. »
Notre image de marque a pris un petit coup dans l'aile.
Ouais, mais je pense que c'était surtout... C'était même pas ça, c'était surtout que je pense que le courrier n'avait pas été pris à la bonne mesure, quoi. Et donc, nous sommes super contents de faire la seconde vie et tout ça. Et donc, résultat, on a recommuniqué avec Adidas, donc on fait ça, on a changé toutes les règles dans les magasins. Bon, à Nike, on ne travaille plus avec Nike de toute façon, donc c'était plus un problème. Et donc voilà, on a envoyé ce message-là à Vanessa. Vanessa, hôtesse d'accueil du magasin de Nantes Atlantis, qui fait changer la posture d'Adidas en Europe. Je crois que c'était une belle histoire.
Ah oui, merci beaucoup pour l'anecdote. Et alors Nike, j'avais pas l'info, la raison de...
En fait, Nike et Decathlon, c'est je pense que des politiques commerciales différentes. On veut répondre à des besoins différents, etc. Ça reste une marque merveilleuse. Hein. C'est fantastique. Je pense que c'est juste qu'on a des raisons d'être différentes. Donc on vit l'un à côté de l'autre, mais plus ensemble.
Ça marche. Tout à l'heure, on a évoqué le fait que donc, quelques pays étaient un peu pas en test, mais pilote sur la circularité. Si demain, vous avez à convaincre vos équivalents à l'international dans les 60-70 pays dans lesquels vous travaillez ?
Ouais, 60 pays.
Ce serait quoi les arguments et quel est leur degré de maturité sur le sujet s'ils ont été sondés ?
Alors, on va être assez cash. Hein. J'ai pas à les convaincre, puisque en fait, c'est l'objectif stratégique du groupe.
Ouais.
Donc, on travaille tous pour le même groupe. Donc, en fait, ils ont une scorecard et ils sont en charge de la mettre en œuvre. Donc, en revanche, ce que j'étais en train de faire, même avant de vous rencontrer, là, quand tout à l'heure je prenais un thé, je suis en train d'écrire assez précisément un plan de marche dans lequel ils doivent comprendre l'impact de cette activité pour l'ensemble de leur activité. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire pour la supply belge ? Qu'est-ce que ça veut dire pour le e-commerce allemand ? Qu'est-ce que ça veut dire pour le marketing italien ? Et donc, c'est plutôt, qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc, c'est plutôt à nous de produire une feuille de route extrêmement claire et à eux de bien la mettre en œuvre de manière efficace. En revanche, Effectivement, les premiers pays pilotes, en revanche, doivent montrer la preuve de la viabilité durable. Puisque vous preniez la question de la rentabilité. Aujourd'hui, oui, c'est une activité qui est profitable. Profitable, ça veut dire qu'en fait, on ne perd pas d'argent. En revanche, dans cette activité, comme elle est jeune, les coûts, en fait, sont pas des coûts cibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais faire 700 000 produits. Si demain, je fais plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions de produits, les coûts de gestion de chaque article doivent baisser. Et donc, c'est ces coûts-là qu'il faut aller valider. Et c'est ça, en fait, qu'il faut démontrer. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, on a de bonnes raisons, enfin on est plutôt satisfait du chemin sur lequel on se trouve.
Ouais, donc c'est figure d'exemplarité plus la roadmap, quoi. Voilà.
Effectivement.
Et en termes de communication en interne, donc vous avez recruté une équipe pour cette offre seconde main, mais il faut aussi former, j'imagine, tous les vendeurs. Comment est-ce que vous avez organisé justement cette formation continue de vos équipes pour qu'ils passent les bons messages aux clients?
Alors pour le coup, si je vous ai exprimé tout à l'heure qu'on avait plutôt des difficultés à l'époque sur le système d'information sur lequel il fallait hacker un peu le système global, etc. On est quand même chez Decathlon, on a des opportunités fous. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, un décathlonien vous raconter une histoire qui fait sens, mais il est trop content, il a trop envie de la faire vivre, etc. Et je vous parlais de ces filles qui nous appelaient. Moi, il y a une jeune fille qui travaille là, ici, sur Paris, hein, au magasin de la Défense. Elle a écrit à l'ancien PDG en disant « Michel, je t'informe que je vais quitter Decathlon parce qu'aujourd'hui, la chose de la circularité n'est pas assez efficace. » Donc, elle avait écrit ça, ça date, hein, c'était il y a 5 ans. Mais vous voyez à qui on a affaire. Donc, quand vous avez la chance de travailler avec ces gens-là, en fait, globalement, on fait, je sais pas, des plateaux repas, des pizzas et un truc simple. On fait des journées de formation où on est super concret, où on fait des sketchs pour se rassurer, etc. On a des outils e-learning qui sont parmi les plus performants du marché. Enfin, on a tout le background ressources humaines de chez Decathlon. Et là, en fait, ce truc-là, c'est une fusée, quoi. Donc, quand il y a un truc qui est décidé chez Decathlon, c'est plutôt génial à mettre en place. Il y a quand même un truc où changer le pack de RAM. Hein. Ou changer le pack de REM, c'est-à-dire que si vous voulez que les gens soient fiers de porter les sujets de transformation, ben en fait, le variable, il doit intégrer les sujets de transformation. Donc aujourd'hui, il y a une partie des primes qui sont calculées sur la représentation de ce qu'est l'économie circulaire.
Hyper smart. Donc oui, il y a j'entends trois clés. En tout cas, le recrutement des meilleurs ambassadeurs, ça fait sens. Et ensuite, les différents outils en interne, et puis ouais, vulgairement la carotte, mais c'est vachement bien de mettre ces primes. Enfin, c'est une très bonne idée de mettre en place ces systèmes, je pense, de motivation, entre autres économique.
Ouais, vulgairement la carotte, j'aime pas ce mot. Parce qu'en fait, moi, c'est une manière de leur dire merci et, ouais, et bravo, quoi. Je veux garantir que mes équipes soient fières et bien payées. Ben donc, on crée les conditions pour les mettre en action sur les bons leviers et que si elles activent les bons leviers, elles soient bien payées.
En matière de communication côté, cette fois-ci, clients finaux, vous avez fait une opération il y a quelques mois, je ne sais pas comment on le prononce, c'est Decathlon à l'envers.
On ne va pas le prononcer,
ouais, c'est ça.
C'est Decathlon à l'envers.
Ça ne se dit pas, mais vous pouvez nous la décrire et puis nous raconter comment ça a été accueilli par le public.
Ouais, donc on est en ce moment, en transition entre deux mondes, un ancien monde chez Decathlon qui était très distribué, où en fait, il y avait beaucoup d'initiatives locales. Et on est en train de reconstituer un Decathlon qui voudrait être plus simple à lire, plus efficace et incarner de nouvelles choses. C'est le mandat notamment qui est mis en œuvre par notre nouvelle CEO. L'initiative belge, elle est bonne. Elle est bonne parce que c'est l'histoire d'une team, qui est une team belge, qui a une singularité, qui est très libre et qui est efficace et qui connaît très bien son marché. Et donc, ils ont effectivement décidé, pendant un temps donné, de changer les logos de leur magasin pour les mettre à l'envers. Et en fait, ils ont fait ça pendant le cadre d'une opération commerciale où ils voulaient faire la promotion très large de l'activité de la reprise. Ça a marché, ça marchait parce que les gens adorent Decathlon, que le logo, tout le monde le connaît, que le voir à l'envers, ben non, je sais pas, si on faisait la même chose avec Coca-Cola ou Nike, justement, ça marcherait tout autant. Voilà. En revanche, ce qui marche pas, c'est pas le truc de ce logo, c'est qu'en fait, ce qui pourrait marcher mieux, c'est si tout Decathlon, partout dans le monde, employait les mêmes outils au même moment. Ouais, là, l'impact, en fait, il serait démentiel. Et donc, je ne sais pas si on va réutiliser ce logo ou pas. On va y réfléchir. Les équipes belges étaient plutôt satisfaites. Ça a marché. Il y a plein de gens qui sont venus à Decathlon Belgique, etc. Bravo à eux. Bravo Benoît, bravo Arnaud. J'aime bien dire les prénoms parce qu'il y a des gens derrière ces responsabilités. En revanche, on va peut-être travailler davantage avec les parties prises de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on veut désormais incarner, etc. pour matérialiser encore mieux notre message. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce sera un même message partout au même endroit.
Je vous ai pas posé la question, plutôt, enfin, ça aurait dû être fait au début, mais de la répartition de la vente entre le digital et le local, parce que vous disiez il y a plusieurs initiatives locales, j'imagine que c'est en boutique. C'est quoi la proportion, en France en tout cas, ou en Europe?
Ouais, aujourd'hui je pense qu'on va être sur un 80-20. D'accord, on a attaqué par les magasins. Encore pour l'instant, une grosse partie de l'activité elle se fait en magasin. On est en train de travailler pour cette transition. On a pour l'ambition que peut-être 40% de l'activité de Decathlon se fasse rapidement sur du e-commerce. Donc nous, en fait, on va prendre le même chemin. Puisqu'en fait, c'est le chemin de Decathlon. Et nous, en fait, on est une partie prenante de Decathlon, mais on s'inscrit dans la même veine. Pour faciliter la vie des gens. Parce que je pense que des fois, vous avez besoin d'un sac à dos, vous n'avez pas besoin de faire trois changements de station pour venir chercher un sac à dos. Vous pouvez juste appuyer sur un bouton entre midi et deux au café avec une copine et être livré. Et en plus de ça, on en parlait tout à l'heure avant de démarrer cet échange, le e-commerce, avec derrière des moyens de livraison efficients qui vont servir un grand nombre d'utilisateurs, finalement peut contribuer aussi à la décarbonation du modèle, à ce que chacun prenne plus son véhicule pour sortir d'une ville, aller en périphérie dans une zone commerciale. Donc ça, c'est aussi des choses sur lesquelles on s'attache.
Est-ce que vous avez vu depuis peut-être ces 10 dernières années évoluer les comportements consommateurs, notamment en matière de RSE, si je peux dire, donc intérêt pour la circularité ou facteur autre que le prix pour guider un achat?
Alors si, on doit se le dire encore pour l'instant, et puis dans cette période de tension sur les prix, d'inflation, le prix reste pour l'instant durablement et on a plutôt de la stabilité par rapport à l'année précédente. Le facteur numéro un d'intérêt, aussi bien pour revendre un produit que pour faire l'acquisition d'un produit. En revanche, il y a quand même des localités, souvent on parle de persona, hein, il y a des localités sur lesquelles, par exemple sur des grandes villes, etc., on observe qu'effectivement, il y a une prise de conscience, il y a des changements, et on sait très bien que ce type de personnes, en fait, c'est les premiers signaux de grandes vagues. D'accord, on parle changement de génération, voilà, les jeunes notamment. Et donc on se prépare à ce que justement on doive servir rapidement un grand nombre de personnes qui vont non pas choisir la seconde vie, mais qui vont surtout refuser des produits neufs qui ont été produits avec des matières, etc., qu'ils veulent éviter.
Donc si on fait une petite extrapolation, Pedro, pardon. Donc si on fait une petite extrapolation de type Nostradamus, comment est-ce que vous voyez le futur, la répartition du marché dans le futur, je ne sais pas, projection 2030-35, et particulièrement sur l'offre circularité?
Je pense que l'offre circularité, à l'image de ce que l'on a déjà aujourd'hui sur de l'immobilier, sur des biens de consommation extrêmement onéreux, des véhicules, etc., on va avoir la même représentation. Et je pense qu'on s'autorisera à produire de nouveaux articles dans le futur pour des innovations. Voilà. Si vous autoriserez à produire un nouvel article, si il y a une innovation incrémentale qui est importante. Voilà. De la même façon qu'on est passé de l'ère du téléphone à l'ère du smartphone, effectivement, il fallait produire de nouveaux smartphones. En revanche, mon smartphone n'a pas progressé depuis 10 ans. Donc, je change la batterie et basta.
Donc, on va passer à un point de vue un peu plus inspirationnel. Est-ce que vous avez un livre, un site, un podcast ou une référence culturelle à nous proposer pour pouvoir évoluer sur le sujet ?
Oui, il y a un monsieur qui m'a particulièrement marqué et qui a accompagné la transformation de la économique de la région Nord, qui est Jérémy Rifkin. Jérémy Rifkin qui nous a parlé de la troisième révolution industrielle il y a quelques années et désormais qui parle dans un livre là, qui est sorti récemment du fait que l'on doit passer du modèle de l'efficience au modèle de la résilience. Et je pense que c'est un livre qui est parfois qu'il y a des passages un peu durs, hein, on est sur de l'économie, etc., mais qui est essentiel pour bien comprendre la transition que l'on doit aborder et le besoin de changement de mindset, notamment de la part des actionnaires qui sont propriétaires en fait, des structures.
Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre dans ce podcast ?
Alors pour faire bouger Decathlon, on ne l'a pas fait tout seul. Je voudrais dire merci à Louis qui est ingénieur chez Forcla qui est une marque formidable dans laquelle les gens sont partisans de cette transformation environnementale. Donc Louis, Chloé, etc., ils se sont levés, donc ils habitent dans la montagne, notre siège de Decathlon, ils se sont levés, ils ont été voir leur patron Fred, qui est merveilleux, qui est un super gars avec qui j'aimerais trop partir en vacances faire du trekking. Et ils lui ont dit, Fred, non mais t'es le patron là. Créer les conditions pour qu'on change, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Nos objectifs, on ne peut pas les faire si jamais on n'a pas ce changement de cap. Donc Fred, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, il appelle le PDG de l'époque, il appelle son adjoint, etc. Et il leur dit, j'ai besoin qu'on se voit et je voudrais que vous passiez un peu de temps avec un mec. Et en fait, ils ont créé un meeting avec Jean-Marc Jancovici, qui a parlé à notre PDG, etc., pendant 2 heures. Et la chose était faite, en fait. Donc l'adjoint du PDG, il a dit, vous avez besoin de combien ? On a besoin de temps pour faire une étude. Donc ça, c'est en centaines de milliers d'euros, mais ils ont fait une grosse étude. Et puis finalement, moi, avec les autres copains, on a fait que reprendre la même logique de l'étude appliquée sur le grand périmètre Decathlon. Donc du coup, effectivement, je pense que Jean-Marc Jancovici dans le podcast, ce serait canon.
On aimerait, oui.
Bon défi, mais avec plaisir.
Donc je crois comprendre que vous êtes pas mal entouré chez Decathlon. Est-ce qu'il y a une rencontre en particulier qui vous a permis de pouvoir évoluer dans votre secteur ?
Je parlais de 3 personnes. Je suis marseillais. Et alors même si ça va pas plaire à grand monde parce que c'est un monsieur qui a fait de belles choses et des moins belles choses, j'aime beaucoup Bernard Tapie. Voilà. Pourquoi j'aime Bernard Tapie ? Alors forcément comme tout le monde, je l'aime pour les bons aspects, parce que je suis fan de foot et qu'on a gagné la Coupe d'Europe, mais surtout parce qu'il avait cette phrase simple, il dit en fait personne ne t'attend. Moi personnellement, personne ne m'a demandé de faire la seconde vie. Vous les filles, je sais pas si quelqu'un vous a demandé de créer ce podcast, mais je pense pas. Donc je pense que personne ne t'attend. Donc comment tu prends ton dessin en main ? Après tu le prends avec des règles. Voilà, ça on est ok. Une deuxième personne, c'est Bertrand Piccard. Bertrand Piccard qui est ce fabuleux médecin, qui est ce fabuleux aventurier, ce fabuleux ingénieur qui a créé cet avion qui pourrait ne jamais atterrir. En fait, parce qu'il a été courageux. Il a été courageux, il a dit aux gens qu'il avait créé un avion qui allait pouvoir ne jamais atterrir et qui serait autosuffisant. Et comme il a eu le courage de le faire, il l'a dit. Et bien en fait, il y a des gens qui se sont mis dans sa boucle, qui l'ont rencontré, etc. Et ils ont fait ça. Et s'il ne l'avait pas dit, s'il n'avait pas publiquement, s'il ne s'était pas mis à nu devant tout le monde, il ne l'aurait pas fait. Et Bertrand Piccard, en fait, la raison pour laquelle il a fait ça, c'est parce que c'est un visionnaire et que derrière, il voulait monter un fonds d'investissement pour montrer que toutes ces technologies dont on a besoin pour cette transformation environnementale, elles existent déjà. Donc à la fois pour son courage et son esprit visionnaire. Et puis, il y a un monsieur qui est chez Decathlon, qui s'appelle Pierre, qui a été mon manager il y a quelques années. Et en fait, je pense qu'il m'a permis de devenir un adulte au sein de l'entreprise. Un adulte qui ne sert plus ce que son patron lui demande de produire, mais qui est en éveil sur ce que l'entreprise a besoin de réaliser et qui peut s'autoriser à dire avec la forme les bonnes vérités aux personnes qui ont besoin de l'entendre. Et donc, de discuter en one-to-one de manière très... très simple avec le PDG d'une boîte qui réalise plusieurs milliards, avec l'actionnaire, etc. Et c'est OK, en fait. Et aussi, si on n'est pas d'accord, c'est OK aussi. Et ça, je pense qu'on est un grand nombre à avoir eu besoin de faire ce pas. On a cette chance chez Decathlon. Je pense que c'est pas on n'a pas la même possibilité partout. Mais voilà, merci à lui.
Bah, merci à vous pour cette dose de motivation.
J'ai une dernière question très pratique. Est-ce que vous avez mentionné le trek, mais ça peut être autre chose, nous partager avec nous deux parcours sportifs, balades ou autres sympas aux alentours de Lille et aux alentours de Marseille, ça on fait pas de jaloux.
Donc aux alentours de Lille, ce que j'aime énormément, en fait Lille on l'oublie, mais en fait c'est pas très loin de la côte, et donc vous allez avoir le Cap Griné avec le petit village de 800 qui sont merveilleux. Donc si jamais un jour il fait pas trop mauvais et que vous êtes dans le coin, allez faire un tour de ce coin là il y a une balade qui est fantastique à faire au pied d'une falaise, et à 800 vous pouvez faire du kitesurf, donc une initiation au kitesurf, c'est super fun. Et après, il y a plein de bars pour boire un coup et raconter vos exploits à tout le monde. Et après, donc je suis marseillais, j'ai grandi à côté des Calanques de Cassis. Et donc, aller découvrir le plaisir de faire du plongeon dans les Calanques de Cassis et de faire de la plongée dans cet espace qui est devenu une réserve naturelle quand j'étais enfant. C'est merveilleux. Vous allez y découvrir, si vous mettez la tête sous l'eau, des dorades de plusieurs kilos qui n'ont pas peur de vous parce qu'elles n'ont jamais été pêchées. Et ce n'était pas le cas quand j'étais petit. Donc à l'époque, je l'ai vécu comme une interdiction. Et finalement, en grandissant, je le vis comme une bénédiction. Et voilà, donc les calanques de Cassis, la calanque d'Anvaux notamment, qui est un écosystème merveilleux.
Merci beaucoup Julien. Bon retour à Lille alors.
Merci à vous.
Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez appris des choses et apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, et de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles, ainsi que de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.